Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jusqu'au 17 août, le Petit Palais accueille une exposition-événement Paris 1900, la ville spectacle. Franck Ferrand a sauté sur l'occasion. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Pensez si j'allais laisser passer, pareil aubaine, de parler de l'expo de Paris, de la Belle Époque. Cette exposition avec un E minuscule, celle du Petit Palais, n'évoque pas seulement d'ailleurs l'exposition avec un grand E, il y est aussi question de société, de politique, de style, de mœurs. C'est toute une époque qui ressurgit sous nos yeux écarquillés. Nous aurons tout à l'heure au téléphone le directeur du Petit Palais et ici même, à mes côtés, je suis heureux de recevoir Michel Carmona, pour qui Paris, vous le savez, n'a strictement aucun secret.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Patricia sur l'origine de l'agneau pascal.
Une question tout à fait de saison, dans la lignée des fêtes mobiles d'hier. L'époque dans laquelle je vous propose de nous plonger à présent n'était pas spécialement cléricale quand on y songe.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On n'avait pas vu d'aussi grand événement sur Terre depuis l'exposition universelle de Paris déjà en 1889. L'exposition universelle de 1900. Celle qui, pour les Parisiens, restera l'exposition, sans qu'on ait besoin de préciser le millésime. Une ode aux sciences et aux techniques, à l'industrie et au commerce, au travail et à la vertu, au progrès, à la République, bref, un hymne à la bourgeoisie, disons-le, ce qu'Armand Lanoux, prix Goncourt, avait appelé la bourgeoisie absolue. Cette bourgeoisie fin de siècle qui édifie une ville insolite sur les bords de la Seine, écrivait-il, a triomphé non seulement de l'aristocratie, ça c'était au moment de la Révolution française, mais aussi du peuple, par trois révolutions confisquées ou écrasées, 1830, 1848, la Commune. Elle domine la finance et l'industrie, elle détient la quasi-totalité des sièges parlementaires et des ministères, elle régit l'université, elle est maîtresse sans partage du quatrième pouvoir, la presse. Bienvenue dans ce que la bourgeoisie elle-même baptisera du nom de Belle Époque, l'époque pleine de couleurs, de Monet et de Renoir, pleine de mélodies, de Debussy, de Satie, l'époque des voilettes et des ombrelles pour ces dames et pour ces messieurs des canotiers et des moustaches cirées, incomparable époque de la tour Eiffel et de la fée électricité, où sont nés quasiment en même temps et dans quelques arpents l'automobile, le cinématographe, l'aéronautique, le téléphone, sur fond de trains à vapeur et de paquebots géants, époque élégante et neuve, des hommes de bonne volonté et des jeunes filles en fleurs, des grands banquets républicains et des attentats anarchistes, de la revue de Longchamp et des parades de cuirassiers, des mardis de Madeleine Lemaire et des jeudis de la comtesse Gréful, de l'illustration du Gaulois, du Matin, des vaudevilles à la Feydeau et des déclamations de Madame Sarah, des exhibitions de Mata Hari, de Loïc Fuller, d'Isadora Duncan, de toutes ces promenades aux Tuileries, sur la promenade des Anglais, de Fantomas, d'Arsène Lupin, de Rouletabille, des Brigades du Tigre, et puis du Moulin Rouge et de l'Alcazar d'été et du Palais des Glaces et de l'Ambigu Comique. Et de cette sorte de Babylone orientalisante en carton-pâte que l'on a bâti 4 ans durant de l'Alma à la Concorde et entre le Trocadéro et l'école militaire, ce fantastique Luna Park à thème industriel pour adultes en goguettes et enfants éternels. 105 hectares circonscrits dès 1892 par le ministre du Commerce de l'époque, Jules Roche, qui avait, j'allais dire, extorqué au président Sadi Carnot les plans définitifs. Il faut lire le texte de Jules Roche introduisant le projet même de cette exposition universelle. Les expositions, disait-il, ne sont pas seulement, faudrait le dire avec le ton de l'époque, ne sont pas seulement des jours de repos et de joie dans les labeurs des peuples. Elles apparaissent de loin en loin comme les sommets d'où nous mesurons les chemins parcourus. Ce sera la fin d'un siècle de prodigieux essor scientifique et économique. Ce sera sera aussi le seuil d'une ère dont les savants et les philosophes prophétisent la grandeur, dit-il. Il est évident, et ce sera l'une des critiques le plus généralement adressées à cette exposition universelle, il est évident qu'elle est très largement tournée vers le passé, vers le 19e siècle, et qu'elle est en quelque sorte beaucoup plus la conclusion du siècle dont elle est la dernière année que l'inauguration du nouveau. L'inauguration au sens propre de l'exposition a eu lieu le 14 avril par une pluie battante. Il faut imaginer un océan de parapluies recouvrant les huit reflets et les grands chapeaux à plumes de ces dames, n'est-ce pas? Le président de la République est arrivé dans sa calèche à la Daumont, bien entendu, hein, c'était comme ça à l'époque, avec, vous savez, les piqueurs, les cochers, si vous voulez, qui sont carrément à cheval sur les chevaux du convoi, très beaux chevaux hein, qu'on a brossés pour l'occasion avec leur croupe brossée en damier, il faut imaginer tout ça, les crins au vent si je puis dire et à la pluie. Le petit président, comme on appelle Émile Loubet, est accompagné du président du conseil Alexandre Mirand, du préfet de police qui porte un nom célèbre puisque c'est monsieur Lépine, vous savez, celui du concours évidemment, du chef du protocole de l'Élysée, du secrétaire général, etc. Il est également suivi par un peintre qui va essayer d'immortaliser la circonstance et qui n'est autre que l'inoxydable Bouguereau, en l'occurrence, bien entendu. D'ailleurs, intéressant de voir quels ont été les artistes prisés par une époque et ceux qui, finalement, la postérité aura retenu. Alors, le président de la République s'est embarqué sur un bateau mouche au pont d'Iéna et il prendra pied au cours de la Reine et il va, sur les accents de la marche solennelle de Massenet, inaugurer l'exposition depuis la porte monumentale du cours la Reine, qui est la plus importante des 50 entrées qui ont été prévues pour cet espace gigantesque d'exposition. Alors, vous voyez à quoi elle ressemble un peu, cette porte, elle a été beaucoup reproduite un peu partout sur des gravures, des tableaux, on en a un peu partout. Vous avez deux espèces de grands minarets et puis au milieu une sorte d'arche triple en staff surmontée d'une sphère d'or, une Sainte Sophie du bon marché, dira Armand Lanoux. L'architecte est là d'ailleurs, Binet, lèvres pincées, un gommeux vient de dire derrière lui que son entrée n'est que l'agrandissement démesuré de la porte du Balbulier, écrit Lanoux. Et c'est d'autant plus Ross, affirme-t-il. Ross, c'est un mot d'époque, hein, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. C'est d'autant plus Ross que c'est vrai. Dressé en figure de proue, une Parisienne de 8 mètres de haut, toute cambrée, la jolie tête levée, coiffée d'étranges nouilles, la robe de bronze boulonnée feignant de flotter, les mains au vent, domine cette gigantesque charcuterie, écrit-il. Moreau Vautier, le sculpteur, l'a coiffée de la fluctuate nec mergitur, penchant sur son chignon le bateau de la ville de Paris. Elle n'est pas nue, elle n'est pas mythologique. Au-delà, elle est le mythe. La Parisienne de 1900 s'offre au monde avec la courtoisie gracieuse et les bonnes manières des grandes patronnes des maisons spécialisées. C'est-à-dire que les maisons en question, elles font floresse dans le Paris de l'époque et notamment pendant cette exposition où l'on va recevoir, vous imaginez, des visiteurs de la France et même de l'Europe et du monde entier. Alors, le cortège officiel, revenons aux choses sérieuses deux minutes, le cortège officiel se dirige vers le pont Alexandre III, flambant neuf, un pont évidemment qu'on a inauguré pour l'occasion. Hein. Et c'est le prince Ouroussov qui représente le tsar de Russie. Alors, il y a tout un long entretien qui va durer 20 minutes entre le prince Ouroussov et le président de la République. Et comme on est dans cette période de renforcement de la triple entente, hein, cette triple alliance entre la Grande-Bretagne, la Russie et la France, on se dit qu'ils doivent parler de choses très sérieuses. En fait, le soir au dîner, le président Loubet expliquera que la confidence que lui faisait le prince Ouroussov concernait les eaux minérales, parce que l'un et l'autre étaient malades du foie, simplement. Il faut vous dire que les banquets de l'époque, c'était quelque chose, évidemment, et qu'on peut imaginer ce que les foies devaient subir. Alors, le cortège repart, on passe par le pavillon de la Russie, où il y a une voiture du Transsibérien, des églises à bulbes d'or, etc. On passe par la rue, le vieux Paris, hein, une sorte de reconstitution de ce que pouvait être Paris au Moyen-Âge par Albert Robida, et puis tous les pavillons étrangers, le pavillon suédois tout en tuiles, avec des bulles, des colonnes torsadées, etc. Vous avez bien sûr le village suisse qui a laissé son nom à tout ce quartier de Paris qu'on appelle encore aujourd'hui le village suisse. Monsieur Loubet est exténué, il est grand temps de repartir pour l'Élysée, il n'a pas vu ne serait-ce que la moitié de l'exposition.
Madame Arthur aurait une femme qui fit parler d'elle longtemps. sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle. Chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame.
Yvette Guilbert sur Europe 1, c'était un court extrait de Madame Arthur.
Bien sûr, Madame Arthur. Il faut vous dire que c'est la femme qui est au cœur, au centre de cette exposition. Elle prend le thé dans le transsibérien du prince ou au temple d'or japonais, nous dit Armand Lanoux. Un thé impérial dont la cueillette est fatale à l'arbre qui le produit, précise le guide remboursable du journal Le Matin. Au risque de faire verser à ses lectrices une larme tiède dans cet attendrissant breuvage, dit-il. Elle dîne au restaurant viennois. Elle va boire du lait cru chez les Suisses ou manger du filet de renne fumé en Suède. Elle goûte du bout des lèvres roses la gueuse lambic, le mocha arabe, le chorizo espagnol et ce parfum à l'essence de rose bulgare. Elle passe des heures au palais des fils, tissus et vêtements, gigantesques cartes illustrées de la mercerie. Elle se rue au cours la reine, fête à neneux géante où la bourgeoise côtoie l'entretenue et la femme du monde. Elle ondule sur le trottoir roulant quand elle passe devant les officiers à corset aussi serré que le sien, grand frelon bleu et or. Elle regarde avec une admiration équivoque le phare de Brême dressé au pont d'Iéna. Freud n'est toujours pas loin, nous dit Armand Lanoux, qui s'amuse avec évidemment cette naissance de ces balbutiements de la psychanalyse. Hein. Freud à l'époque est en train de mettre la dernière touche à son essai sur les rêves, l'interprétation des rêves. Sa sœur exemplaire, la Loïfulaire, nous dit-il, agite son voile sur une musique de Debussy. Elle a des rivales, Cléo de Mérode, Zambelli, les Bayadères de Siva, les prêtresses d'Isis ou la japonaise Sada Yako qui déroule pour les premiers rangs de binocles superflus et de moustaches émoustillées toutes les séductions des célèbres estampes. Le plaisir est le maître mot de ce temps qui rit sur fond de misère, car le bonheur de vivre n'est le fait que du petit nombre, précise évidemment notre auteur. Les violons caressent, ziganes, dernières étreintes, sourires d'avril et valses bleues, il y a du Luna Park partout, la grande roue l'emporte, érotique, il faut soigner les dessous, Stéphanie, on va à l'expo, et technique, quelle merveilleuse création que celle de cette gigantesque roue de bicyclette qui tourne dans l'espace, transportant à la fois dans une magique ascension 1200 voyageurs. Comment, vous n'avez pas vu que c'est la solution d'un problème d'équilibre qui donne une idée nouvelle et grandiose des ressources de la mécanique et de la métallurgie? Vous êtes bien comme votre père, le consul, vous ne regardez que les mollets des femmes, Gaston. Si vous préférez l'aquarium, la sirène chevelue à queue amovible d'Albert Guillaume y rencontre un scaphandrier moustachu qui ressemble trait pour trait au plombier du quai de Grenelle. Quand les feux s'éteignent, le scaphandrier ôte son casque et la sirène sa queue en élastique, accessoire gênant pour les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Il y a évidemment une atmosphère de fête, de rire, peut-être de rire même un peu gras dans toute cette affaire. On n'imagine pas ce qu'a pu être le déferlement de plaisir, si je puis dire, de cette exposition de 1900, plus festive et populaire que les précédentes, nous dit Gaël Rio. Elle marque d'ailleurs un tournant dans l'organisation des fêtes internationales. Les attractions spectaculaires prennent le pas sur les démonstrations didactiques, à l'image de la grande roue, haute de 100 mètres, construite avenue de Suffren spécialement pour l'occasion. Sur le cours La Reine, la rue de Paris évoque le Montmartre des théâtres, des cabarets et des restaurants, le théâtre des auteurs gays, le théâtre des bons hommes Guillaume et le théâtre du Grand Guignol comptent parmi les établissements les plus célèbres de cette rue où les Parisiens et visiteurs se pressent pour applaudir les auteurs comiques du moment. C'est le seul endroit de l'exposition à bénéficier de l'électricité jusqu'à minuit, car il ne faut pas l'oublier, l'électricité, bien entendu, est aussi la reine. Elle est en quelque sorte la deuxième reine de cette extraordinaire exposition. Alors, bien entendu, les guides de l'époque se sont longuement appesanti sur toutes les merveilles qu'il était possible de voir. Pas seulement sur les plaisanteries, pas seulement sur les attractions, bien entendu, mais aussi sur tout ce qu'on peut découvrir. N'oubliez pas que cette exposition se veut théoriquement dédiée à la science et aux techniques. En France, le chimiste perd du terrain en cette époque, nous explique Armand Lanoux. Il est sale et pue le chlore. Le physicien est Dieu et l'ingénieur est son prophète. On ne consent un peu de place qu'à l'explorateur qui tient des deux. Vive le docteur Nansen. La goutte d'eau de Seine, grossie 10 000 fois, répond à la lune à 1 mètre, récupérée de l'ancienne exposition avec la galerie des machines. N'en déplaise à Bonnie de Castellane, un sou est un sou. Pourquoi n'en déplaise à Bonnie de Castellane? Parce qu'il n'est pas content du tout. Il fait partie de ceux qui, avec Robert de Montesquieu, avec tout le Paris élégant, a décidé de bouder cette exposition et ses plaisirs populaires, pour ne pas dire vulgaires. Voici, explique Bonnie de Castellane un jour de mauvaise humeur, une immense plaie sur le pauvre Paris et qui attire les vilaines mouches de tous les pays du monde. Et évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il est évident que l'électricité, les techniques, tous les exposants, il y a des dizaines de milliers d'exposants dans tous les domaines, dans toutes les professions, chacun venant montrer ce qu'il peut faire de mieux et ce que son pays est capable de faire de mieux, tout ça ne pèse pas lourd face aux grandes attractions, si je puis dire, que sont les spectacles organisés pour l'occasion. La reine de toutes les grandes festivités, c'est bien sûr Sarah Bernhardt, je l'ai dit tout à l'heure, mais on se presse pour l'écouter. Elle vient de triompher dans l'Aiglon à ce moment-là. Jules Renard a eu la dent dure à son propos. « On est comme devant une belle chute d'eau, dit-il, bientôt on veut s'en aller. » C'est exactement ça. La France de 1900 se résume-t-elle, avec sa richesse, avec son opulence, avec son inventivité, avec sa foi extraordinaire dans un progrès qui a l'air sans limite, cette France se résume-t-elle dans l'exposition de 1900? Ah, ça n'est pas si simple, car la France de 1900, nous dit Lanoux, est raciste, antisémite, antinègre, xénophobe, elle traite de métèques tout ce qui ne provient pas de l'Hexagone. Au-delà du folklore, les esprits avisés pressentent la puissance américaine et découvre cette Allemagne jaune, le Japon. Le blindage des cuirassés démode Madame Chrysanthème. On a peur de la véritable Allemagne, ne l'oublions pas. D'ailleurs, Guillaume II n'a pas été invité officiellement. Il s'est vengé en envoyant dans le pavillon de l'Allemagne de magnifiques toiles qui sont signées et Boucher, et Fragonard, et Watteau. Et l'Allemagne s'est offert dans cette affaire le luxe de rendre hommage à la France du XVIIIe siècle. Ça, c'est un peu un pied de nez, en quelque sorte. 1900 n'est ni la belle époque, ni le bagne que laisserait entrevoir, vu de nos jours, toutes les données économiques précises, nous dit Armand Lanoux. C'était le présent, c'était leur présent. On les voit palpiter dans leurs journaux, sur les photographies, sur les premiers films de nos grands-parents, devinant l'avenir aussi bien et aussi mal que toute autre génération. Gober, certes, mais il y avait Bergson. Facilement grossier dans leur manière d'acheter les femmes, mais il y avait Peggy. Badauds et bavards, mais il y avait Proust. Le plus grand nombre composait une société où demeurait beaucoup d'innocence chez les femmes et les filles et de l'honnêteté, car il arrivait que le financier véreux ou l'industriel imprudent se suicida, ce que nous avons aujourd'hui presque oublié.
C'est Paulette Merval avec l'Escarpolette, un extrait de l'opérette Véronique. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Paris au début du XXe siècle.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes cet après-midi, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire de l'exposition universelle de 1900 de la Belle Époque.
Et oui, la Belle Époque nous paraît un monde bien révolu et quelque peu vain, avec son style inventif mais sans lendemain, sa gastronomie trop grasse et son rire trop franc, écrit Christophe Leribaud, qui est le commissaire de l'exposition du Petit Palais. Pourtant, ce monde d'hier, pour reprendre la belle expression de Stefan Zweig, gagne à être exploré au-delà du seul, pittoresque du Moulin Rouge, du tapis roulant de l'exposition universelle et des débuts burlesques du cinématographe. Ce dernier nous en livre d'ailleurs une image à la fois vivante et distanciée, avec ses passants qui font signe parfois à l'opérateur sans qu'on sache très bien s'ils avaient conscience exactement qu'ils passeraient à la postérité, tels des pitres muets. Justement, le directeur du Petit Palais et commissaire de l'exposition, Christophe Leribaud, est avec nous en ligne. Bonjour Christophe Leribaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous vous êtes fait plaisir, si je puis dire, dans cette extraordinaire exposition qui nous montre d'abord l'incroyable inventivité d'une époque qu'on aurait presque oubliée.
Ah, j'espère que c'est un plaisir communicatif. On a voulu une exposition plaisante sur un grand moment d'optimisme universel et très parisien, avec beaucoup d'objets très, très variés qui rendent compte vraiment d'une certaine euphorie à ce moment-là.
Alors, en fait, on revisite l'exposition, si je puis dire. On part de cette porte monumentale dont j'ai dit qu'elle ne plaisait pas à tout le monde tout à l'heure. Et puis, on visite d'abord tout ce qu'il y avait dans cette exposition à travers les pavillons des différentes nations.
Alors déjà, pas très loin de la porte monumentale, il y avait le Petit Palais déjà,
oui, c'est vrai,
à cette
vrai.
Occasion, et puis son grand pavillon, le Grand Palais, le pont Alexandre III. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a monté cette exposition. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il alternait à la fois des pavillons officiels, des expositions tout à fait sérieuses, et puis des petits pavillons de divertissement avec des attractions. Il y avait un château à l'envers, il y avait le
château à l'envers, c'était une espèce de pavillon avec des miroirs qui faisait que tout ce qu'on voyait était inversé en quelque sorte. Et même quand on regardait par la fenêtre, on voyait l'exposition sans dessus-dessous d'une certaine manière. Il y a un petit côté fête foraine dans tout ça. Alors, et c'est ce qui fait la particularité, je crois, de cette exposition de 1900. Alors, ce qui est magnifique dans l'exposition, c'est qu'elle ne se cantonne pas à l'exposition, qu'elle évoque évidemment tout le reste, qu'elle évoque autour de l'exposition universelle, la société qui vibre et qui palpite, hein, cette belle époque fourmillante en vérité.
Bien sûr, aussi bien la mode que la gastronomie. Et d'ailleurs, si l'exposition universelle de Paris a eu tant de succès, 51 millions de visiteurs. Hein,
51 c'est millions parce... de visiteurs, oui, c'est incroyable. C'est-à-dire plus que la population de la France,
oui,
en fait.
Oui, beaucoup plus. Et c'est bien parce que les visiteurs savaient qu'au-delà de l'exposition officielle elle-même, ils baigneraient dans l'effervescence parisienne, qui pourraient aller à Montmartre, qui pourraient bien manger, qui pourraient aller chez les couturiers ou dans les grands magasins, selon leur revenus.
Paris avait
plein d'autres choses à faire.
Paris était un phare planétaire, nous allons y revenir dans un instant avec Michel Carmona, évidemment. C'était vraiment la ville lumière au plein sens du mot à l'époque.
Elle attire aussi bien les riches que les artistes un peu crèvent la faim, mais tous ont de bonnes raisons de venir à Paris. Effectivement, c'est une ville illuminée par l'électricité, qui sait très bien se mettre en valeur, qui utilise évidemment cette exposition universelle qui ouvre le siècle, etc., pour en rajouter, mais qui de toute façon est de loin, je crois, la ville la plus attractive du moment, aussi pour son sentiment de liberté, d'effervescence. Enfin, on sent qu'on vient à Paris pour de l'inouï, pour ce qu'on peut rien trouver, d'équivalent ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu de cette exposition, Christophe Leribaud. Il faudrait préciser aussi qu'il y a dans cette exposition un certain nombre d'œuvres. Hein. Il y a des Muchas de Toulouse-Lautrec, il y a évidemment des meubles magnifiques de Majorelle, il y a du Guimard, bien entendu. Et puis, on peut même voir des petits films des Frères Lumière et de Georges Méliès. Merci beaucoup et bravo pour cette exposition.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de l'exposition universelle de 1900 à Paris, avec vous Franck Ferrand et votre invité Michel Carmona, historien, auteur notamment de Paris, l'histoire d'une capitale de l'UTES au Grand Paris aux éditions La Martinière.
Bonjour Michel Carmona.
Bonjour.
Je suis très heureux que vous soyez là. Vous connaissez cette expo comme si vous l'aviez visitée, si je puis dire, ce qui serait quand même un peu difficile, évidemment. Mais on en a énormément de témoignages, il faut dire. Il suffit parfois d'aller se promener dans une brocante ou un vide-grenier pour voir toutes sortes de petits souvenirs, des cendriers notamment de l'exposition universelle, hein, qui ont dû à l'époque être édités dans des quantités phénoménales pour qu'ils arrivent encore un siècle plus tard et même plus d'un siècle après à inonder encore nos marchés. Je disais tout à l'heure que cette expo avait une physionomie un peu particulière. On avait connu en 1855 une exposition très commerciale, en 1867 une exposition plus princière, plus royale, si je puis dire, et très nationale d'une certaine manière. En 1889, alors là c'était la célébration du progrès, de la République, de la Révolution, etc. Et là, très sérieuse l'exposition de 1889, et là on a l'impression que c'est une exposition de franche rigolade.
Vous l'avez dit vous-même, Franck, on est passé des expositions didactiques, les quatre premières expositions universelles qui étaient didactiques, à quelque chose qui n'est plus du tout didactique. Si, il y a quand même des milliers de mètres carrés pour les sciences diverses, mais ce n'est pas ça qui attire les gens. C'est l'extraordinaire foire, les distractions, la nourriture, le spectacle que les gens se donnent à eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui est complètement différent. Et je vais dire complètement nouveau, parce que je crois que le ton des expositions universelles qu'il y a eu après s'inspire finalement de cette extraordinaire fête qu'a été celle de l'Expo de 1900.
On a l'impression d'un grand éclat de rire au tournant du siècle comme ça. C'est une société encore très insouciante que celle de la France de 1900 ?
La société est très insouciante malgré les difficultés, malgré les inégalités. L'exposition de 1900 a... un peu comme toutes les expositions, en tout cas en France, commençaient sans que tous les bâtiments aient été terminés.
Oui.
Raison, il y a eu évidemment beaucoup de grèves. Il y a eu en 1900, une comptabilité qui vaut ce qu'elle vaut, 700 grèves en France. Et il y en a une bonne centaine pendant l'exposition, parce que c'est normal, les ouvriers font un petit peu de chantage. Vous augmentez les salaires, ou bien nous, on va diminuer les cadences de travail. Je rappelle qu'il n'y a pas de loi sociale à cette époque. Les salaires, ils sont pas géniaux. Un ouvrier gagne entre 3 et 5 francs par jour. L'entrée à l'exposition, c'est 1 franc. Donc, ce n'est pas une exposition qui va véritablement être faite pour le peuple de base. Mais le peuple de base adore l'exposition, adore cette animation, adore ce qui se passe, et il a la fierté de Paris et de la France.
Et ce que disait Armand Lanoux dans ce texte auquel j'ai beaucoup emprunté tout à l'heure pour mon récit, c'est qu'en fait, c'est une exposition, d'une manière générale, on peut dire que c'est une exposition de bourgeois pour des bourgeois qui célèbrent la bourgeoisie au pouvoir. C'est-à-dire qu'on est, au sommet de ce que la Troisième République peut accomplir, là.
Oui, mais il n'y a quand même pas 50 millions de bourgeois. moi, ce qui me frappe, c'est l'adhésion, finalement, de toute la population à cette exposition. Et moi, je dirais, malheureusement, il va y avoir 14-18 après, mais il y a le même enthousiasme en 1914 pour aller s'engager dans la guerre, parce qu'on croit à la France. Et il y a toute une série de symboles qui sont très importants. Par exemple, pendant l'exposition, cet extraordinaire banquet offert à tous les maires des 36 000 communes de France,
oui, ça,
aux Tuileries, le 22 septembre.
Le premier grand banquet des maires de France. Hein,
absolument. Alors, ils n'étaient pas 36 000 à ce banquet, ils étaient 22 000 ou 23 000.
Oui.
Mais ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui réveille, qui ranime la fibre patriotique des Français et des Françaises à cette époque. Ils sont fiers d'être Français, fiers de Paris et fiers de leur expo.
Alors vous me fournissiez la quantité des vivres, des victuailles qui ont été englouties au cours de ce banquet. C'est absolument phénoménal. Hein.
C'est phénoménal.
Ça représente 1800 canetons de Rouen, 2500 poulardes de Bresse, 2400 kilos de saumon, même chose de filets de bœuf, 30 000 cigares distribués.
Tout à fait. Et sans oublier 44 000 bouteilles de vin.
Et oui.
Pour 22 000 personnes. On fait tout de suite le calcul. Ça fait 2 bouteilles par personne.
Alors,
on buvait bien à l'époque.
Cette exposition, finalement, à part ce fameux grand banquet des maires de France, n'aura pas laissé énormément de traces par rapport à celle de 1889 qui avait complètement bouleversé les consciences, etc. Celle de 1900, on est bien, comme vous le disiez, dans une espèce de grande foire. Qu'est-ce qu'il en reste du point de vue des monuments, par exemple, aujourd'hui ?
Alors, il y a le pont Alexandre III, ah oui, le Grand Palais, le Petit Palais.
C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal. C'est vraiment réalisé pour l'exposition. Ensuite, il y a la gare d'Orsay, qui date de 1900, qui est vraiment le point de ponctuation, le point d'orgue du 19e siècle qui s'achève. Il y a la gare de Lyon, qui a été complètement relookée à cette époque. C'est en fait la troisième version de la gare de Lyon, avec sa grande tour de l'horloge. C'est de cette époque qu'elle date. Et puis, il y a aussi, alors moins connue, moins spectaculaire, la passerelle de Billy au-dessus de la Seine. Mais effectivement, en dehors de ces grandes œuvres, de ces grandes réalisations, il n'y a pas eu le grand bouleversement de Paris.
Il n'y a pas eu de Tour Eiffel, en quelque sorte.
Non, mais la ville de Paris, qui est derrière cette opération avec le gouvernement, ne voulait pas se lancer dans des grands travaux d'urbanisme, d'anticipation, avec tout ce que ça pouvait faire prévoir de polémique. Elle a préféré utiliser au maximum les bâtiments et les sites des expositions.
Et les espaces encore libres dans Paris, parce qu'à l'époque, il y en avait encore. Oui.
Voilà, il y avait heureusement tous ces espaces libres.
Tu parlais du village suisse le long du... Enfin, au bout, plus exactement, du Champ de Mars, qui existe encore.
Qui existe toujours.
Aujourd'hui.
Le nom est resté.
Oui,
le nom est resté. Je crois que dans cette exposition, ce qui attirait les Parisiens et les Français de manière plus générale, c'était le spectacle de tout ce que la France savait faire de nouveau et de spectaculaire. Alors, il y avait la fameuse rue de l'avenir. Et c'est quoi la rue de l'avenir ? C'est le trottoir roulant à deux vitesses. Alors, on a des bouts de films, des frères Lumière qui sont très très drôles. Les hommes, ils font un peu les bravaches, ils vont sur le trottoir le plus rapide, et puis les dames restent sur le trottoir en moyenne vitesse. Mais elles ne restent pas très longtemps, une fois qu'elles ont compris, elles enjambent, si je peux dire, la séparation entre les deux trottoirs, et s'en vont s'entasser également sur le trottoir le plus rapide. Alors ça s'appelle donc la rue de l'avenir. Et c'est très spectaculaire, parce qu'on surplombe une grande partie des sites de l'exposition, mais c'est un morceau de ce que le progrès peut apporter. Vous savez, il y a toutes les inventions dans lesquelles on baigne déjà à cette époque. Il y a l'automobile, même extraordinaire, l'automobile. Il y a déjà trois salons de l'automobile qui sont tenus aux Tuileries. Et le quatrième se tiendra dès janvier 1901, cette fois au Grand Palais, qui semble comme fait pour l'automobile. Et l'automobile, c'est français. La moitié des automobiles qui roulent dans le monde en 1900, elles roulent en France. Alors, donc il y a cette espèce d'ivresse. Il y a évidemment les sarcasmes contre l'odeur du moteur, contre les pannes, contre toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans une invention qui est vraiment complètement brute à cette époque, complètement naissante. Mais il y a une espèce d'ivresse chez les Français et d'orgueil.
Je pense qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer l'état d'esprit qui pouvait être celui de ces 51 millions de visiteurs. Pas tous français du reste, il y en avait qui venaient d'un peu partout, mais en grande majorité français bien sûr. On n'imagine plus quel était leurs espérances, leur foi dans l'avenir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la société, nous allons y venir dans un instant, était contrastée, elle était souvent dure même, mais globalement, il y avait la certitude d'être dans son bon droit, d'avancer, d'aller de l'avant, si je puis dire, et que le lendemain serait, quoi qu'il arrive, bien supérieur à ce qu'avait pu être la veille.
Ce qui, moi, m'a beaucoup frappé dans la visite de l'exposition très très intéressante, très bien faite, du Petit Palais, c'est de voir la place que tenait la colonisation.
Oui, oui.
Alors, on n'en parle pas trop parce que ça ne fait plus partie des idées bien. Mais là, la France, elle affiche avec beaucoup de fierté le fait qu'il y a des Sénégalais, il y a des Maures, il y a des Tonkinois, il y a des gens du nord de l'Indochine, et que tout ça, c'est à elle. Alors, c'est à elle en quel sens ? C'est à elle parce qu'elle leur apporte la lumière. Et une des plus belles peintures de l'exposition qu'il y a au Petit Palais, qui, moi, m'a émerveillé, c'est une peinture qui montre la France, au milieu de la peinture, une femme superbe, qui tient dans ses mains l'électricité, la lumière. Alors de l'autre côté, il y a des Sénégalais, des Malgaches qui sont là, tendus vers elle, qui attendent cette électricité et les bienfaits de la France. Et derrière la France, il y a qui ? Des soldats avec des visages tendres, bienveillants, le casque colonial. Et ça, je pense que c'est le cœur même de ce qui pouvait émouvoir les Français à l'époque.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes... Eric Satie sur Europe 1, un extrait de Je te veux, interprété par Jesse Norman. Et un petit peu par vous, Franck Ferrand également.
Mais on n'a pas entendu.
Non, c'est dommage. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'exposition universelle de 1900 à Paris avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Michel Carmona, historien, auteur notamment de Paris, l'histoire d'une capitale de Lutèce au Grand Paris, aux éditions La Martinière.
Michel Carmona nous parlait à l'instant du rayonnement colonial de la France de l'époque. Il y a aussi le rayonnement culturel de Paris, bien entendu. Hein, et c'est Nadejda qui nous dit via Facebook qu'il y a une cinquantaine d'années, avec sa famille, elle traversait la Croatie, qui à l'époque était très archaïque. Ils se sont arrêtés, nous dit-elle, près d'une ferme où la famille battait le blé avec un fléau. Le grand-père de la famille est venu à notre rencontre et au fil de la conversation, il nous a raconté qu'il était allé visiter l'exposition universelle de 1900. Et là-bas, dans le fin fond de la Croatie, il en avait conservé un souvenir ému. Le rayonnement, la lumière, le rayonnement, ce sont les termes clés d'une exposition universelle, évidemment, Michel Carmona.
Oui, il y a une fascination de la France dans le monde. La France, c'est les grands principes de 89. L'exposition de 1889 avec la Tour Eiffel a exalté la liberté et exalté la France en même temps. Mais depuis 1889, le mythe continue. Et c'est un mythe moteur. C'est le mythe qui justifie aux yeux des Français eux-mêmes l'épopée coloniale. On n'est pas là-bas pour opprimer des gens, mais au contraire pour leur apporter la liberté, les lumières et une vision nouvelle de ce que peut être le monde d'aujourd'hui, un monde d'égalité et de liberté. Et puis il y a l'extraordinaire épopée industrielle. En vous écoutant, Franck, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est loin du principe de précaution? Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que ça vient faire là?
Mais non, mais si,
mais non,
c'est vrai.
Mais
c'est
on
vrai.
Est très très loin.
Oui.
On ose. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des accidents. Il y a des morts dans les premières courses automobiles, il y a des spectateurs ou bien des coureurs
et
qui
songez
se tuent.
Au début de des aéroplanes.
Hein. Or ces gens, c'est qui? C'est des martyrs du progrès. Et de chaque catastrophe, on tire des leçons pour éviter qu'elles se répètent à l'avenir. Et c'est cette espèce d'ivresse qu'il y a dans toute la société. Même les classes populaires, qui n'ont pas une vie très 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 facile, elles croient qu'il y a la possibilité d'aller de l'avant. D'ailleurs, les grèves...
De grimper dans la société.
De grimper dans la société, il y a les grèves. Et puis il y a l'éducation, il y a cette extraordinaire éducation laïque. Nous, de temps en temps, on parle l'instituteur de la Troisième République, on dit les hussards de la République. Mais c'était exactement ça, le désir à la fois de détacher les gens de l'emprise de l'Église. 5 ans plus tard, il va y avoir la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, qui est un moment extrêmement important dans notre histoire. Eh bien, dans cette France, justement, il y a toute cette éducation qui vient pour essayer d'inculquer les bonnes manières en société, la conduite en société. C'est très important. La devise est liberté, égalité, fraternité. Et ça, c'est le résultat d'une éducation.
Et ça fait déjà une, pour ne pas dire en vérité même, parce que tout ça avait commencé sous Louis-Philippe, 2 générations que l'éducation est très répandue à travers la France. Et on en voit les fruits. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si, bon, l'automobile d'une certaine manière, mais surtout le cinéma, l'aviation, tout ça est inventé en France et même, on peut dire, dans la région parisienne à cette époque. Il y a un bouillonnement là qui est phénoménal. Ce sont des inventions sur lesquelles le reste de la planète va vivre pendant plus d'un siècle quand même.
Vous avez même le précurseur de la télévision qui s'appelle le théâtrophone et qui permet à la famille Rostand d'assister à la première de L'Aiglon et de regarder Sarah Bernhardt. Était-elle bonne actrice ou pas bonne actrice? Question d'appréciation. Mais en tout cas, de regarder en tout cas L'Aiglon, le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand.
Alors, la société, je le disais tout à l'heure, est très contrastée à cette époque. Je vous rappelle ce que nous disait Lanou. Il dit que la belle époque n'était pas belle pour tout le monde. C'est certain. Il y avait aussi, disons-le, une certaine instabilité politique, avec notamment ce danger, cette espèce de menace anarchiste permanente. Les anarchistes sont très présents dans la société de l'époque.
Ils sont très présents et ils ont même presque réussi. Au beau milieu de l'expo de 1900, le 2 août 1900 exactement, ils ont presque réussi à tuer le Shah de Perse. Ils ne l'ont pas fait et donc il n'y a pas eu, en définitive, en dehors de cet attentat qui s'est passé avenue Malakoff, en dehors de cet attentat, il n'y a pas eu de geste anarchique. Mais ils sont très 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 présents. Il y a des bombes qui explosent de temps en temps, même à la Chambre des députés, dans les rues, et il y a une inquiétude, on va dire, dans la société. Mais les relations à l'intérieur de la société, oui, on est au début, mais les relations à l'intérieur de la société, les relations sociales, elles sont quelquefois brutales. Il y a des grèves qui sont réprimées par l'armée, où au bout du compte, l'armée tire, et pas seulement en l'air. Et puis, il y a de l'autre côté, dans le syndicalisme, un courant extrêmement puissant, qui est le courant de Jules Guedes, qui a été l'un des grands fondateurs du syndicalisme français. On appelle syndicalisme révolutionnaire. C'est la force, de temps en temps, qui va permettre d'obtenir les libertés que la bourgeoisie refuse. Et il y a donc cette tradition, cet enracinement d'une forme de violence à l'intérieur des relations sociales.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1900, on est aussi éloigné de l'ancienne société, qui était une société aristocratique, extraordinairement brillante, mais avec ses propres tares, si je puis dire, et de la société démocratique ou populaire que nous connaissons nous aujourd'hui. On est entre les deux, c'est bien cette société bourgeoise qui est au pouvoir, avec toute l'hypocrisie de la bourgeoisie aussi, il faut le dire, concernant notamment le statut des femmes, qui est très particulier. La femme mise sur un piédestal, la parisienne qui accueille les visiteurs sur la grande porte monumentale de l'exposition universelle, et puis en même temps, une femme qui n'a quasiment pas de droits et qui est souvent considérée comme une valeur d'ajustement dans les familles.
On va dire c'est la femme objet.
Oui,
d'ailleurs,
voilà, ça,
il y a parmi les films qui ont le plus de succès, et on en retrouve des extraits dans l'exposition qui est au Petit Palais, ce qu'on appelle le coucher de la mariée. C'est en fait le premier striptease. Alors rassurez-vous, ça s'arrête aux pantalons et aux corsets qu'on n'enlève pas.
À l'époque, ça devait déjà être affolant.
Alors, c'était d'une audace et d'une provocation. Et c'est la femme, comme vous venez de le dire, valeur marchande, le coucher de la mariée, c'est vraiment ça. L'homme attend de prendre possession de l'objet qu'il s'est offert, qu'il a acheté. Il y a alors d'autres aspects dans la situation de la femme. Par exemple, les vendeuses, de manière générale, dans les boutiques et les grands magasins, n'ont pas le droit de s'asseoir. Alors, elles peuvent avoir des journées de 11 heures debout.
Oui.
Voilà. Alors, il y a un magasin qui fait un petit peu scandale parmi les autres parce qu'il autorise les vendeuses à s'asseoir pendant 3 reprises à l'intérieur de cette journée de 11 heures. On dit vous êtes en train de casser quand même l'image de la vendeuse et l'ardeur au travail de la vendeuse.
Et pour revenir à la femme objet, il y a donc toutes ces courtisanes de niveaux très différents. Ça va de la grande allongée très fortunée jusqu'à la petite grisette et prostituée de bas étage, si je puis dire, mais ça constitue une véritable population dans la population. Hein. Il y a eu une augmentation, une recrudescence phénoménale de la prostitution pendant cette exposition universelle.
Oui, avec deux aspects. La prostitution officielle, celle qui est surveillée avec des contrôles, y compris sanitaires, et puis la prostitution spontanée. Et la prostitution officielle se plaint de la concurrence déloyale que la prostitution spontanée lui fait. Parce que ce ne sont pas des filles qui sont surveillées, qui sont en maison, etc. Mais il y a effectivement le haut de gamme, qui est le fameux Chabanet, rue Chabanet, dans le quartier Saint-Anne.
Il y a même encore mieux, hein, puisque je parlais de Cléo de Mérode, etc. Il y a des grandes courtisanes.
Alors ça, c'est autre chose.
C'est quasiment des princesses.
C'est plus de la maison close.
Oui, voilà. elles ont un statut, en tout cas, un rang quasiment de princesse. Elles reçoivent, hein, même les chefs d'État, etc. Enfin, tout ça est extravagant.
Tout à fait, ça fait partie du prestige de Paris.
Voilà.
On vient visiter ces dames exceptionnelles et les admirer, si on peut dire, en chair et en os.
Notamment le fameux prince de Galles, qui va passer beaucoup de temps dans les coulisses de l'expo.
Il est très assidu.
Le futur roi Édouard VII d'Angleterre, bien entendu. Alors, il y a une chose qu'aime bien aussi Édouard VII, en dehors des courtisanes et des courses de chevaux, c'est l'art. Et il ne faudrait surtout pas négliger la dimension artistique de cette exposition et de tout ce que Paris et la France ont à dire au monde sur ce plan-là aussi. Alors d'abord, il y a les arts majeurs, la peinture, la sculpture, Rodin, Monet, après tout, ce sont les héros cachés de l'expo.
Oui, dans la peinture, vous avez cité Bouguereau tout à l'heure, qui accompagne Émile Loubet. Ça, c'est l'art, on dira
l'art officiel,
plus tard, l'art pompier, voilà, l'art officiel. Et puis, il y a tout ce qui commence à être reconnu et qui commence à s'intégrer comme une des images de la France créatrice dans ce domaine, qui est, on va dire, l'impressionnisme. L'impressionnisme et le fauvisme aussi qui commence. Et tous ces peintres, les peintres Crève-la-Faim, les peintres de Montmartre, bientôt les peintres de Montparnasse, et tout ce peuple artistique qui crée, qui invente, qui accueille, qui attire de l'étranger. Le nombre de peintres qui viennent de l'étranger, il n'y a pas que Picasso, il y en a combien d'autres? Il y a Soutine, il y aura plus tard Chagall, les noms sont multiples. Et ça, c'est un des éléments de l'attraction de la France. Et d'ailleurs, l'exposition de 1900 comporte un thème, une sorte de sous-titre qui est « L'art nouveau ». Et l'art nouveau, c'est la propriété de la France. On a inventé ce terme. Il y a naturellement beaucoup de tendances équivalentes en Autriche-Hongrie et en Allemagne. Moucha, que vous avez encore cité, justement, qui fait partie et tout ça. Mais l'art nouveau, c'est l'expression française. L'art nouveau, c'est spécifiquement français.
Avec un style bien particulier que vont fixer des gens comme Majorelle dans le monde de l'ébénisterie d'immobilier et comme Guimard dans celui de l'urbanisme, disons.
Je crois qu'on peut dire que c'est un art qui est très beau. Oui. Il est à la fois très fonctionnel,
naturaliste,
il est très beau, il est naturaliste.
Des lignes très, très souples comme ça.
Oui, oui. Mais avec une fonctionnalité, parce que ça aussi, c'est une des préoccupations de l'époque qui est très importante, c'est être fonctionnel. Il y a évidemment l'apparat, il y a tout ce qui n'est pas du tout fonctionnel, les corsets qui vous étranglent, etc. Mais à la base, il faut avoir des biens, des produits qui vous soient utiles, comme l'automobile, comme le téléphone. Tout ça, cet univers... du progrès. Moi, je dirais aujourd'hui des esclaves mécaniques, si vous voulez. Voilà, on dit, on abandonne le règne de l'esclavage de l'humanité et on a des esclaves mécaniques à notre disposition. Et je pense que c'est ça qui fait partie de cette espèce d'ivresse qui emporte toutes les classes de la société, même les gens les plus pauvres.
Les robots sont à notre service.
C'est tout à fait ça.
Je parlais de Guimard, évidemment, c'est l'époque du métro aussi, il ne faut pas l'oublier.
La première ligne de métro a été faite pour l'exposition.
Eh oui.
Avec cette station qui était la plus importante, qui s'appelle Les Palais. Bon, c'est aujourd'hui Champs-Élysées Clémenceau, qui était la station
Les Palais,
qui venait
le grand et le petit,
desservir
bien sûr.
Voilà, le grand et le petit palais.
Donc on peut dire d'une certaine manière que le métro, avec le grand, le petit palais et le pont Alexandre III, qui sont dans le prolongement de leur avenue, constituent les grands vestiges de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Quand on est aujourd'hui exactement à mi-chemin entre le grand palais et le petit palais, entre ces, quand même, ces grandes architectures qui ne manquent pas de gueule, si je puis dire, et qu'on a la vue sur ce pont Alexandre III avec ses hautes colonnes, ses trophées dorés au sommet des colonnes qui répondent aux dorures lointaines du dôme des Invalides, on a une impression d'élévation, etc. Or, il faut imaginer qu'entre tout cela figuraient encore tous les grands pavillons de l'exposition universelle. Alors ça, c'était des architectures éphémères le long de l'esplanade des Invalides, mais qui devaient donner un coup d'œil. On a tous ces tableaux, mais il faut imaginer ce que ça devait être en vrai, hein. Ça devait être renversant lorsqu'on sortait du métro. Vous parliez des tenues des femmes à l'instant, Michel Carmona. Je ne peux pas résister à la description que donnait Jean Cocteau, vous savez, de la tenue de la femme de l'époque. Armure, dit-il, écu, carcan, gaine, baleine, gants, épaulières, jambières, cuissards, gantelets, corselets, licou de perles, bouclier de plumes, baudrier de satin, de velours et de gemmes, cottes de mailles, ces chevaliers hérissés de tulle, de rayons et de cils, ces scarabées sacrés armés de pins à asperges, ces samouraïs de zibeline et d'hermine, ces cuirassiers du plaisir que harnachaient et caparaçonnaient dès l'aube de robustes soubrettes, semblaient raides en face de leur hôte, ne pouvoir sortir d'une huître que sa perle. L'idée de déshabiller une de ces dames était une entreprise coûteuse qu'il convenait de prévoir comme un déménagement. Merci infiniment, Michel Carmona, d'être venu nous faire partager les enthousiasmes de nos aïeux de la Belle Époque.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Patricia sur l'origine de l'agneau pascal.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Patricia. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait connaître l'origine de l'agneau pascal.
Alors déjà, il y a des origines différentes selon qu'on parle de cet agneau pascal juif ou chrétien. Alors, dans la tradition juive, c'est un peu long peut-être. Je suis en train de regarder. Oui, il me reste 30 secondes. Donc je vais vous parler surtout de l'agneau pascal des chrétiens, qui est une représentation de Jésus donnant sa vie pour racheter les péchés des hommes. L'Apocalypse de Saint Jean emploie à 28 8 reprises le mot « agneau » pour désigner le Christ. Donc il y a une vraie assimilation, si vous voulez. L'agneau fait également référence à l'épisode du sacrifice d'Abraham, bien entendu. Se soumettant à Dieu qui lui ordonne de tuer son fils, Abraham s'apprête à sacrifier Isaac. Mais Dieu, nous dit la Bible, arrête sa main et Abraham égorge à sa place un agneau. Voilà pourquoi cet animal figure au menu des repas traditionnels de Pâques. Il est 59-38, ça doit pouvoir aller.